Eh bien, vous savez bien que samedi, nous faisons une méditation sur l'Apocalypse. Si vous entendez pas, rapprochez-vous, vous mettez assis sur les tapis, débrouillez-vous. Vous voyez, l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, qui est le dernier évangile avant la Pentecôte, c'est le dernier moment que Jésus passe avec le dernier chapitre de toute la révélation. Parce que le dernier morceau de texte de la Bible qui a été écrit, l'Esprit Saint a passé par la Sainte Écriture, la dernière fois que ça s'est fait avec ce passage. Parce que l'Apocalypse, en fait, elle est à la fin de la Bible, mais en réalité, elle a été révélée à Saint Jean avant qu'il n'ait écrit l'Évangile. Et l'Évangile de Saint Jean, c'est le dernier passage que l'Esprit Saint a inspiré au corps mystique de Jésus. Et donc, les derniers versets qui ont été écrits de toute la révélation, c'est ce que nous avons lu aujourd'hui. Et dans cette révélation, il y a ceci. Jésus est ressuscité, il vient de pêcher 153 poissons. Et puis, il a demandé qu'on compte les poissons. Alors que je ne sais pas, si vous aviez vu Jésus ressuscité, hein, surtout que c'était au moins peut-être 100, 200, 300 fois qu'il le voyait ressusciter, et il voulait savoir comment ça se passait de l'autre côté. Et Jésus dit, non, vous allez compter les poissons. Alors, ils étaient obligés de compter 1, 2, 3. Mais mon Dieu, quand je pense qu'il pourrait nous expliquer ce qui se passe de l'autre côté dans la grande résurrection. Ça, c'est extraordinaire, n'empêche ça. Et ils étaient obligés de compter les poissons. Et il y avait 153 poissons. Et puis alors Jésus explique à Pierre qu'il doit le suivre sur la croix. Il doit être crucifié. Et quand Jésus dit ça à Saint-Pierre, on vient de lire ensemble, hein. Et bien Pierre dit, ah bon, je dois être crucifié, mais Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, hein, le disciple que Jésus aimait, en hébreu, ça se dit Yeshu Hanan, Jésus l'aime. Celui que Jésus aime. Yeshurana. C'est quand même extraordinaire. Il y a celui que Jésus aime. En fait, son nom en hébreu, c'est pas Yeshuranan, c'est Yohanan. Yehoranan. Vous savez le nom de Dieu qu'on avait au chapitre 14 de l'Apocalypse. On doit être marqué du nom de Jésus et du nom de Dieu, donc du nom de Yeshua et du nom de Yehovah. Le nom de Dieu, c'est Yehovah, et le nom de Jésus, c'est Yeshua. Et quand vous dites en hébreu, hein, le prénom qui est le tien de baptême, eh bien, on dit Yehohanan. Yehwan, ce qui veut dire Dieu vient à l'intérieur de toi et il te caresse. Le verbe hanan en hébreu, ça veut dire caresser de l'intérieur. Vous voyez, vous surgissez à l'intérieur de la chair vivante, toute flamboyante d'amour de celui que vous aimez, et Dieu vous aime de cette manière-là. Il surgit de manière cachée du dedans et il vous caresse. Yehohanan, Dieu aime Saint Jean et il le caresse. C'est physique, hein? L'amour, il le caresse physiquement. Dieu, quelquefois on trouve la traduction, Dieu donne la grâce. Mais non, en hébreu, en araméen, Yehohanan, c'est Dieu qui te donne surgit dans toutes les parcelles vivantes du corps de celui qui aime et puis il le caresse de l'intérieur. Il lui donne une onction amoureuse. Mais le nom de Jean, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ça. Et quand il a écrit l'évangile, le vieux Jean, quand il avait 100 et quelques années, quand il a fallu qu'il écrive l'Apocalypse. Et puis après l'Apocalypse, il dit, tu dois écrire l'Évangile. Donc après avoir écrit l'Apocalypse, il a été obligé, le Saint-Esprit a poussé jusqu'à ce que l'Évangile soit écrit. Et bien dans l'Évangile, comme dans l'Apocalypse, vous ne trouverez jamais le nom de Yohanan. Vous le trouverez dans l'Évangile de Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, dans les Épîtres, dans les Actes des Apôtres. Lui, jamais il mettra son prénom. Le seul moment où son nom apparaît, c'est ici. Mais il ne met pas Yehohanan, il met Yeshuranan. Il y a un chine au milieu. Au lieu de dire que c'est Dieu qui te caresse de l'intérieur, c'est Yeshuranan. C'est Jésus qui, de l'intérieur, te chérit, te caresse, t'unit, te transforme et te met un cœur nouveau, venu de Jésus ressuscité. Parce que Yeshuranan, c'est Jésus ressuscité qui te caresse de l'intérieur de ton corps et il le transforme, il lui donne une autre détermination de résurrection dès cette terre. Oui, il a juste rajouté le shin, c'est-à-dire l'incarnation, la lettre de l'alphabet hébreu qui exprime le corps humain. Le corps de Jésus, de l'intérieur, va s'unir au corps de Saint Jean et ils feront un seul corps. Et voilà pourquoi Jésus dit à Saint Pierre, celui-là, celui que Jésus aimait, Yeshuranan, oui, ça c'est la signature, Saint Jean signe l'évangile comme ça. Alors je suis celui, le disciple que Jésus aimait, Yeshuranan. Le Saint-Esprit lui donne un nom nouveau. C'est quand même assez extraordinaire, n'empêche ça. Et Jésus dit à Pierre, lui, il faut qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Et justement, c'est avec celui qui demeure jusqu'à ce que... Jusque dans le retour glorieux de Jésus qui caresse de l'intérieur tous les membres vivants du corps vivant de Jésus vivant pour leur donner un corps de résurrection à la Jérusalem céleste, c'est avec lui qu'on lit l'Apocalypse. C'est lui qui nous explique comment s'ouvre de l'intérieur de notre chair concrète, de notre sang, de la moindre parcelle vivante et incarnée de notre corps. Comment de l'intérieur, il y a un espace. Dieu s'ouvre, ouvre notre terre. Et notre terre intérieure, c'est de la matière. Mais au centre de la matière, il y a l'animation, il y a la caresse, il y a la grâce, il y a la lumière incarnée de la gloire de la grâce de Dieu. Qui met en place du dedans de notre corps un peu blessé, grâce à cette blessure, une ouverture s'est faite, le Christ glorifié s'y introduit, avec l'Immaculée dans sa fécondité glorieuse, avec la paternité divine de Dieu, dans le trône, avec cette sardoine toute limpide, transparente, sanguine de la paternité. La fragilité dans Saint Joseph, tout ça, ça rentre à l'intérieur de notre blessure qui a fissuré notre corps fondamental, nos cellules vivantes, et vont mettre une lumière pour que notre corps change de nature. Ce ne sera plus un corps blessé, ce ne sera plus un corps psychique, ce ne sera pas un corps terrestre, ce sera un corps céleste. Et ça, c'est Saint Jean, vous voyez. C'est extraordinaire qu'il ait signé l'évangile comme ça, quoi. Vous voyez, le dernier, la Bible est signée de cette manière-là. C'est beau que ce soit le dernier évangile avant la Pentecôte aussi. C'est vrai, c'est quelque chose de très fort. Bon, eh bien, on en était arrivé donc au chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc, nous allons continuer à méditer tout ça et à regarder, à scruter. Et à regarder et puis surtout à laisser cette parole réaliser en nous ce qu'elle signifie. Parce que c'est ça toujours ce qu'il faut. Il faut toujours se rappeler ça. Chaque fois qu'on lit ensemble la parole de Dieu, il faut savoir que si je suis très 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 attentif, si je suis en communion avec ce qui se réalise, que le Saint-Esprit, ce que la grâce fait au milieu de nous, eh bien, de l'intérieur de moi, il va y avoir une béatitude. Bienheureux celui qui lit, c'est-à-dire ceux qui entendent cette parole. Pourquoi ? Parce que cette parole va réaliser ce qu'elle signifie. C'est une parole qui est fécondité. C'est une parole qui est efficace. C'est une parole qui conçoit, qui fait grandir et qui fait naître notre corps de résurrection. L'Eucharistie, c'est une parole, c'est le Verbe de Dieu, c'est une transsubstantiation qui vient faire grandir notre vie divine, qui vient nous incorporer. Vous voyez ? Tandis que la parole de Dieu, vécue dans le fruit de l'Eucharistie, en communion, d'une manière très attentive, c'est une parole qui conçoit quelque chose qui vient d'en haut et qui est physique, parce que la fécondité qui vient d'en haut est une fécondité qui vient de la résurrection. Et la résurrection a intégré la féminité glorieuse de Marie, a intégré la masculinité glorieuse de Joseph, a intégré l'unité sponsale glorieuse des deux, dans la gloire incréée de l'hypostase du Verbe ressuscité. Et donc il y a un seul corps en trois personnes. Et les trois personnes de la très sainte Trinité s'y sont concentrées pour que chacune des trois personnes de la très sainte Trinité, dans cette concentration, pénètre dans ce qu'il y a de plus petit en nous pour engendrer notre résurrection. Vous voyez la signification du mot Yeshurana. Le disciple que Jésus aimait. Et ça, c'est quelque chose de tellement inhabituel, quoi, que aussi, à un moment donné, il faut s'arrêter. Vous savez, on est dans un monde de bruit. Alors, l'intériorité de l'âme. Certaines personnes arrivent à s'y réfugier de temps en temps, vous voyez, en disant oh, il faut que je rentre dans ma vie, dans l'intériorité. Ils vont rentrer, ils vont faire zazen, puis hop, en avant, on va rentrer dans une très très grande intériorité. Vous voyez? Oui, mais est-ce qu'ils sont dans la vérité? Oui, si on veut, parce qu'ils échappent au bruit. C'est déjà pas mal. Mais enfin, où est la fécondité là-dedans? Fécondité égale à zéro. Fécondité égale à zéro. C'est bien, mais c'est une perte de temps. Au moins, tu n'es pas énervé par le bruit. D'accord. Mais la véritable fécondité implique à la fois l'éternité féconde de Dieu et à la fois le corps. C'est l'intériorité du corps qui compte. Et c'est l'intériorité de Dieu. Alors, il se trouve justement qu'avec Jésus, avec Marie, avec Joseph, l'intériorité de la très sainte Trinité ne passe que par le corps. Une unique résurrection. Par la signification sponsale, glorieuse de leur corps unique en une seule gloire de résurrection. Alors la très sainte Trinité se concentre. La vastitude sans limite de la très sainte Trinité se concentre dans la gloire, dans toutes les parcelles vivantes glorieuses de cette unique résurrection de Jésus, Marie, Joseph, et du coup engendre dans ce qu'il y a de plus. Et c'est tout petit, les parcelles vivantes de. Et cette concentration est une pression tellement forte qu'elle produit du dedans de nous, dans l'intérieur de chacune des parcelles vivantes de mon corps à moi, cette caresse glorieuse, trinitaire, violente, jalouse, une pression très forte qui fait que chacune de mes cellules trouve une nouvelle, un nouveau visage, mais de l'intérieur, celui du corps de résurrection, mon corps spirituel. Mais si je ne suis pas attentif, si je ne suis pas attentif, si je ne laisse pas, au fond, Jésus, la parole de Dieu, à travers le corps mystique de l'Église, dont je suis un membre vivant, mon corps spirituel, si je ne vis pas ça dans l'Église, je n'aurai rien du tout. Vous voyez, parce que à ce moment-là, il ne me restera plus que cet isolement de mon âme dans la vie intérieure où je suis loin du bruit. Et du coup, le corps, c'est vrai, dans mon âme, je suis tranquille, mais dans mon corps, je suis en lien avec rien du tout. Je ne suis pas en lien avec le corps mystique de Jésus. Je ne suis du coup pas en lien avec le cœur immaculé de Marie. Du coup, je ne suis pas en lien avec la chair glorieuse du Père. Avec cet océan de sardoine intérieure transparente de la paternité de Dieu glorifié. Vous voyez ? Parce que pour être avec eux, il faut que je fais partie de la famille glorieuse. Si je suis tout seul dans mon intériorité, je suis en dehors. Parce que je fais partie physiquement, concrètement, vous voyez ? Ah oui, je fais partie de l'Église, mais mystiquement, moi. Il y a des gens qui vont vous dire, moi je fais partie de l'Église, je suis mystiquement, oui, oui, mystiquement, je fais partie de l'Église. Ah oui, mystiquement, d'accord, bon, bon, ok. Oui, oui, au niveau des... Voilà, mes énergies sont vraiment christiques, hein. Eh oui, c'est mystiquement. Je fais partie éthériquement de l'Église. Je fais partie, comment, et symboliquement. Ah. Non, 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 je ne peux pas faire ça, je fais partie concrètement. J'y vais avec mes oreilles, avec mes sens externes, avec mes yeux, avec mes pieds, avec mon sens du toucher, avec mon goût, avec ma présence, avec mon attention. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de ce livre. Vous voyez ? Vous savez que les cinq sens externes sont présents. Les sens, cinq sens externes sont présents là. Vous voyez ? Celui qui lit est bien obligé d'utiliser ses yeux. Et on est ensemble, donc physiquement, il y a le sens du toucher. On est ensemble, ça, c'est ceux qui entendent. Et puis, on est quand même, on intériorise ce qu'on entend. Ça, c'est le goût. Et du coup, on sent l'amour de Dieu. On sent la présence du Christ. Vous voyez, on met de l'encens d'ailleurs. On met de l'encens pour ça, pour qu'il y ait un support, il y a un support physique. Voilà, l'Église, c'est comme ça, vous voyez. C'est par le sens externe, le corps est mobilisé. Mais c'est un corps commun qui est mobilisé. Et comme le corps commun est mobilisé, eh bien, Jésus est présent de l'intérieur de chacun de nos corps, dans la moindre parcelle vivante de notre corps. Il y a une christophanie, ce qu'on avait expliqué la dernière fois. Hein? La dernière fois, on avait bien expliqué ça. Christophanie qui jaillit des espèces eucharistiques qui sont à l'intérieur de chacune des moindres parcelles vivantes de notre corps à cause de notre communion eucharistique dernière. Et comme on est ensemble, il y a une christophanie. Et du coup, il y a l'unité de tout le corps mystique de je suis vivant entier. Et du coup, dans les moindres parcelles vivantes de notre corps, il y a Yeshuranan. Il y a une caresse de l'intérieur, une caresse de la fécondité glorieuse de Jésus-Marie-Joseph, de la Sainte Famille, qui engendre dans la concentration de chacune des trois personnes de la Très Sainte Trinité, dans leur unité toute pauvre, toute petite, toute minuscule, mais d'une féconde, qui a la même intensité que la Très Sainte Trinité elle-même, à l'intérieur de nous. Et ils engendrent en nous le corps spirituel. Ouais, c'est pas zazen, ça. C'est pas zazen. Et ça fait beaucoup de bruit, justement. Et s'il y a du bruit extérieur, plus il y a du bruit extérieur, tant mieux. Comme ça, on est sûr que c'est pas parce que, ah oui, je ressens très très fort la force silencieuse de l'avènement du corps spirituel. Non, non, non. Voilà. Donc nous avons compris ça, à force de lire l'Apocalypse, on a compris au moins ça. C'est déjà pas mal. Bon, on a compris beaucoup d'autres choses. Donc. Alors, on est arrivé au fameux 13e chapitre. Quand je dis 13e chapitre, je vous rappelle que l'Apocalypse, c'est 8 chapitres qui montent avec Marie glorifiée, le mystère de la manifestation de Marie, la femme, dans sa résurrection de femme. Jésus assume Marie comme femme, et c'est la résurrection de la femme ressuscitée. C'est les 8 premiers chapitres. Et puis, après les 8 premiers chapitres, 14 chapitres. Et de ces 14 chapitres, on arrive au 13e. Et ces 14 chapitres, on disait bien, vous voyez, que à partir du moment où Marie est au sommet de son unité sponsale glorieuse avec Jésus ressuscité, il y a une seule personne, le Verbe de Dieu, dans une seule résurrection, celle de l'homme et de la femme, dans une humanité intégrale où il n'y a ni homme ni femme. Et de là, eh ben, on a vu qu'à la fin du chapitre 8, tout ça, ça pénètre dans un océan de jaspe vert, le trône du Père, et du coup s'ouvre un voile qui se déchire, c'est l'agneau de Dieu, du coup on voit de cette paternité glorifiée, dont on a découvert c'était Saint Joseph ressuscité, qu'il y a une grande descente à partir de la paternité glorifiée de Dieu, une grande descente vers la terre, un grand chemin de croix à l'envers, un chemin de croix qui va monter dans ce qu'il y a de plus petit dans le corps mystique du Verbe de Dieu, du Fils unique de Dieu, et ce qu'il y a de plus petit dans le corps mystique du Verbe de Dieu, du Fils unique de Dieu, c'est nous. Alors je vis sur la montagne de Sion apparaître un agneau comme immolé, chapitre 14. Et vous voyez ce chemin de croix, ce chemin de croix glorieux de la Jérusalem ressuscitée, à partir du 8e chapitre jusqu'à la fin, cette espèce de 14 stations de la gloire de l'Apocalypse, dans ce qu'il y a de plus pauvre dans la création, du point de vue de l'aspiration, nous a fait arriver jusque à cette 13e station. Et cette 13e station, c'est le chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc, on va lire, et vous allez voir que le 13e chapitre, remarquez bien que c'est très beau, hein, aussi, l'harmonie des chiffres. Faut pas faire trop de spéculations sur les nombres et sur les chiffres, c'est évident, faut pas. Mais, quand même, c'est beau, on le sait très bien, que 12, ça représente la plénitude de l'Église, ça représente la plénitude apostolique de l'Église. Donc, on rentre dans le dépassement de la plénitude du corps mystique de l'Église. Dans le dépassement, il y a un dépassement. Et ce dépassement, c'est quelque chose qui rentre dans l'unité de toute l'Église. L'Église de la Jérusalem spirituelle, de la Jérusalem de la terre, de la Jérusalem lumineuse, de la Jérusalem souffrante, vous voyez ? Et de la Jérusalem ressuscitée aussi, bien sûr, Marie. Cette unité des cinq en une seule Église, il y a un dépassement. Au-delà de cette fécondité de l'Église apostolique toute glorieuse, il va y avoir un dépassement. Quelque chose va se montrer. Et le dépassement, c'est la source de l'unité du ciel. Et c'est chapitre 20. Un voile va se déchirer dans notre gloire, dans notre corps spirituel. Quelque chose va se déchirer. Qu'est-ce qu'on va se déchirer dans l'univers ? Quelque chose va se déchirer dans le ciel empyré. Quelque chose va se déchirer dans tous les éléments, et en particulier dans l'eau, dans les océans, dans les mers. Et ce sera dans l'intériorité psychologique aussi du monde humain, dans les champs morphogénétiques de l'humanité, et aussi dans le combat spirituel et glorieux qui aura été victorieux, parce qu'on est arrivé, déjà on a écarté, hein, on est, au chapitre 20, on a écarté l'Antichrist, ça y est, il est en enfer, hein, c'est fini, il n'y a plus d'Antichrist. Et l'Église a, grâce à l'invasion de l'Immaculée Conception dans tous les membres vivants du corps mystique vivant de Jésus, de l'Église de la Terre en particulier, à cause de ça, la tête du serpent est écrasée. Alors, une fois que c'est écrasé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quelque chose va se dévoiler. Parce que si le serpent aboyait, c'est très joli comme expression, enfin, je suis très fier de cette nouvelle expression théologique, si le serpent aboyait, bon, ne le répétez pas, bon, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait cette dernière déchirure. La source de l'unité du ciel. Alors, maintenant que l'introduction est terminée, on lit le texte. Alors je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, du dedans de Dieu, de face à Dieu, d'auprès de Dieu, dans le texte français, mais ça correspond à un terme hébraïque qui veut dire face à face, et de l'intérieur. De l'intérieur du face à face de Dieu, elle s'est faite belle comme une jeune épousée préparée pour son époux. Préparée, je ne sais pas, en grec, vous voyez, c'est kekosmenon. Ça vient de cosmos. Vous voyez, cosmos, vous voyez ce que c'est que le cosmos? C'est l'univers. C'est tout l'univers, mais l'univers du monde angélique, comme l'univers que vous voyez de vos yeux. Et comme l'univers intérieur aussi. Hein, tout l'univers, tout l'univers. Mais l'univers aussi de la résurrection, parce que le corps ressuscité de Jésus est créé, il fait partie de l'univers. Même s'il est en dehors de l'univers, puisque dans la résurrection, le corps de Jésus ressuscité est sorti de l'univers. Ex tu cosmo était, il est sorti du cosmos. Mais il fait partie du cosmos. Et comme il fait partie du cosmos, il va donc rejaillir du dedans du cosmos pour recréer le cosmos. Et donc il va revêtir le cosmos de l'intérieur du cosmos. Vous voyez ? Que cosmena. C'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit quand je vous ai dit tout à l'heure que Saint Jean, c'était Yeshuranan. C'est de l'intérieur un revêtement du cosmos qui vient revêtir le cosmos de l'intérieur pour en faire un cosmos nouveau, mais qui n'est pas le cosmos. C'est ça que ça veut dire, kekousmenon. C'est extraordinaire, un peu ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut inventer un truc pareil. Moi, si vous êtes capable d'inventer un truc pareil, moi je ne peux pas. Hein. Voilà. Vous pouvez le découvrir, vous pouvez le regarder. Vous pouvez regarder. Alors, regarde. Je vis. Alors, quand Saint Jean voit ça, vous voyez, Saint Jean, Yeshuranan, c'est de l'intérieur, dans son corps spirituel, qui ne mourra pas. Le corps spirituel de Saint Jean ne meurt pas. Vous connaissez l'histoire de Saint Jean, oui, à peu près. Vous savez que quand vous allez à Rome, vous arrivez à la Porta Latina, hein, à la Porta Latina, il y a une porte, allez-y. Les gens passent par la Porta Latina presque tout le temps pour entrer à Rome. C'est les anciens murs de l'époque de l'époque de Septime Sévère et tout ça, hein, attention. Donc à la Porta Latina, eh bien, là, vous avez un petit mausolée, tout petit, grand comme ce cœur, à peu près, peut-être. Et c'est là que Saint Jean a été placé dans l'huile bouillante parce qu'il a été condamné à mort à l'âge de 92 ou 13 ans. On l'a flagellé et puis on l'a plongé dans l'huile bouillante. C'est le dernier des apôtres. Les autres avaient tous été martyrisés 60 ans avant. Le dernier a été martyrisé 60 ans. Pendant 60 ans, il est resté là. Et puis, on l'a martyrisé. Donc, on l'a flagellé, puis on l'a plongé dans l'huile bouillante, là. C'est extraordinaire. Puis après, on l'a sorti de l'huile bouillante pour voir à quoi il ressemblait une fois qu'il était frit. Mais comme c'était Yeshuranan, vous avez compris, exactement comme le prophète Daniel avait transformé la fournaise de Babylone de Nabuchodonosor en fraîcheur délicieuse. Mais de la même manière, Saint Jean, la fraîcheur délicieuse du vent de l'épousée de la résurrection avait transformé dans l'huile gracieuse du paraclet glorifié cette huile en transformation. Et il a trouvé le monde nouveau de son corps spirituel jusque dans l'extérieur. Les témoins disent que il avait un corps tout lumineux, tout jeune, tout glorifié. Alors du coup, ils l'ont envoyé à Patmos, en exil. Et là, il a reçu l'Apocalypse. Et recevant l'Apocalypse, l'ange Marie, glorifié, lui a dit, écris le livre. Alors du coup, il a écrit l'évangile de Saint Jean. C'est pas rien. Et après, il est rentré à nouveau à Éphèse. Vous êtes tous allés à Éphèse, je suppose. Et vous verrez, la plus grande basilique du monde qui a été construite, bah, elle est en ruine maintenant, mais elle était magnifique. Et là, il s'est, à un moment donné, il a dit à ses disciples, bon, je vais me mettre dans ce trou. Il s'est allongé dans ce trou. Il leur a dit d'aller dire l'office de vêpres, n'est-ce pas? Et quand ils sont revenus de l'office de vêpres, il n'était plus dans le trou. Et on vénère toujours cette tombe qui est le cœur de la basilique de Saint-Jean à Éphèse, d'où Saint-Jean a été enterré, et puis ses disciples, quand ils sont revenus, comme pour Marie dans l'Assomption, pareil, quand les apôtres sont revenus, il n'était pas, elle n'y était plus. Comme pour Joseph, quand ils sont revenus, le corps de Joseph n'y était plus. Où est le corps de Saint-Jean? Jésus a dit, celui-ci, si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour. Vous voyez, c'est pas extraordinaire ça? Alors, moi, j'aime bien m'imaginer, je préfère dire j'aime bien m'imaginer parce que c'est pas dogmatique, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'y croire. C'est pas un dogme. Mais je le pense sérieusement en tout cas, que Saint Jean, avec son corps spirituel, ben, il se balade. Ben, il se balade. Il va voir le prophète Élie. C'est pas moi qui le dis. C'est Anne-Catherine Emmerich, elle est canonisée par le pape Jean-Paul II. Elle l'a vu. Alors il va au paradis terrestre, il va voir le prophète Élie, il va au septième ciel pour voir Enoch. Il va, eh ben, il rejaillit, il s'est caressé un petit peu par la Trinité glorieuse, la Sainte Famille glorieuse, dans l'océan de Jaspe, du trône du Père, puisqu'il c'est un des 24 vieillards. Il adore dans la vision béatifique de la résurrection, sans quitter d'ailleurs cette vision béatifique. Eh ben, il vient sur la terre. Il est sur notre terre, de temps en temps. Vous avez jamais rencontré quelqu'un qui a vu Jean? T'as pas vu Jean? Tu as pas vu Jean? Tu l'as pas vu? Et moi j'imagine, donc, puisque c'est pas dogmatique, qu'il se balade. Enfin, il se balade. C'est pas très beau comme mot, hein? Il se balade. Il est le témoin. Il est l'apôtre de la fécondité, de la cité glorieuse, de l'unité venue du ciel, de la résurrection mariale, ajustée à la paternité glorieuse de Dieu. Est-ce que l'envoyé qui sort du trône, est-ce que c'est pas lui? Puisque le trône est saisi par la paternité glorieuse de Dieu. Saint Joseph glorifié, il n'est pas envoyé. Saint Thomas d'Aquin le dit, le Père n'est pas envoyé. Mais bien évident que si on ne vit pas à l'intérieur du corps mystique de Jésus, de l'Église, des sacrements, de manière très physique, jusqu'à faire jaillir de l'intérieur cette pression qui vient de la fécondité glorieuse de la Sainte Famille glorifiée, on ne verra pas, on ne sentira pas ce qui se passe à l'intérieur de Saint Jean jusqu'au jugement dernier. Et c'est très important de savoir ça parce que du coup, on entend ce qu'il dit. Parce que celui qui lit la parole de Dieu et ceux qui l'entendent, c'est lui. Et ceux qui sont comme lui. Et vous comprenez, c'est tout simple, puis en même temps, c'est... Mais regardez, donc, il faut... Quand même, je suis un peu long aujourd'hui, je ne vais jamais finir ce chapitre. Ok, très bien, on a encore... Hein, on peut continuer hein, jusqu'au mois de juin. Hein. Alors, puis je vis un ciel nouveau. Ah, vous voyez ? Le septième ciel où il y a Enoch. C'est lui, hein, c'est je vis, c'est Yohanan. Il a vu du ciel. Vous voyez ce septième ciel dont parle saint Paul. Bon, je vous en ai déjà parlé. Donc, de ce ciel, il y a une espèce de ramassage de ce qu'il y a de plus. Du sommet du ciel naturel, hein, c'est-à-dire du monde angélique le plus vaste, le plus intense, le plus profondément, qui authentifie de manière la plus profonde l'image la plus parfaite de tous les attributs divins. C'est là où se trouve Enoch. Vous voyez ? Parce qu'il n'est pas encore revenu, Enoch. Hein. Ça, on a vu ça au chapitre 11 de l'Apocalypse. Donc, je ne reviens pas dessus. Eh bien, Enoch et tout ce qu'il avait emporté avec lui, tout le monde spirituel angélique supérieur, n'y est plus. C'est tout rentré dans le Yeshua Hanan. Tout a été absorbé, vous voyez, pénétré pour rentrer dans l'unité. Dans l'unité glorieuse de l'Église de la Terre et de l'Église du Ciel. C'est extraordinaire. Donc ce monde céleste, si vous préférez, spirituel, contemplatif, angélique, de toutes les hiérarchies contemplatives, sont absorbés et viennent, sont comme happés, elles qui sont tellement extasiées, dans une extase sans limite, du point de vue de la vastitude, de tous les attributs divins, et bien c'est comme si, dans cette vastitude d'extase, des jubilations, c'est comme s'ils étaient ramassés dans le corps spirituel des élus. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Le ciel, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus... Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Vous voyez, le corps spiritualisé, le corps absolument parfait dans le mariage spirituel dont parle Sainte Thérèse d'Avila, qui fait qu'on est en affinité parfaite, avec l'inscription glorieuse et éternelle qui se trouve sur le livre de la vie, qui est la nôtre. N'est-ce pas ? Vous voyez, le corps spiritualisé est divinisé au sommet, disparaît, en nous. Sur la terre. Oui. Mais qu'est-ce qui va rester ? Car le premier ciel et la première terre ont disparu. Ah, ça d'accord. Le premier ciel, la première terre. Regardez. La première terre, c'est quoi ? C'est le paradis. C'est là où se trouve. C'est la terre paradisiaque. C'est la terre des origines. C'est la terre de la grâce originelle. C'est la terre, vous voyez, du oui originel de Dieu. Et le oui originel va disparaître parce qu'il va être remplacé par l'Amen, éternel de Dieu. Le paradis, Élie, est déjà monté dans la Sainte Famille Glorieuse. On le sait, chapitre 11 de l'Apocalypse, avec Enoch. Et donc, le paradis qui était son... Il devait régner, il devait apporter le règne du paradis dans la Jérusalem glorieuse. C'est marqué ici. Il y est emporté. Et c'est une précision, vous voyez, par rapport... Vous sentez bien que c'est une précision par rapport au chapitre 11 de l'Apocalypse. C'est une précision. Ensuite, de mère, il n'y en a plus. C'est normal. Nous avons réussi, grâce à toi, à écraser... Crac. C'est avec ton talent, tu sais. La tête du serpent. Ça, moi, c'est une chose que j'aime bien. Quand on a marre de prier, tu sais que tu fais. Tu prends ton talon comme ça, tu le lèves un peu, tu laisses venir la tête du serpent, comme dans le film de Mel Gibson, tu sais. Tu le laisses venir bien, et puis tu appuies, hein. Mais vas-y doucement pour pouvoir entendre le chant magnifiquement agréable.
Serpent, Satan, antique, l'antichrist.
Et du coup, le domaine où il était roi, c'est-à-dire le domaine psychologique, le domaine de notre intériorité, de ce qu'on ressent, ça, là, Satan est roi. L'antichrist est roi du monde métapsychique. Là où il y a les énergies, là où il y a le plasma, là où il y a la lumière, là où il y a le ressenti, là où il y a la réalisation, tout le domaine de Satan, quoi. Tout le domaine de Satan et de l'antichrist disparu. Tout le domaine psychique. Il n'y a plus que du spirituel et du corps, c'est tout. Il y a un ciel nouveau, un monde spirituel nouveau et une terre nouvelle, un corps spirituel nouveau. Dans chacun d'entre nous, vous voyez, ce sera beau, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Comprenez bien qu'on n'est pas au ciel. On n'est pas dans la vision béatifique. On n'est pas loin. On n'est pas loin, ça c'est vrai. Mais vous voyez, c'est quand même... Mais quand je pense que, quand je pense qu'on va faire partie de ce truc-là... Oui, parce que je pense que c'est pas loin quand même non plus. Hein. Si on canonise le pape Jean-Paul II, c'est qu'on ne doit pas être très très loin. Hein. Ah, moi, ça m'étonnerait qu'il faille attendre très très longtemps. Hein. Hein. Comme, c'est beau. Enfin, je pense que vivre ça alors qu'on sera jeune comme toi. Moi, quand je vivrais ça, je serais vieux. Regarde, j'ai déjà 60 ans. J'aurais 60 ans, je serais vieux. Enfin, je serais vieux, tu vois. Mais jeune. Oh, quelle chance. Là, je me rappelle, j'avais un vieux père spirituel à Paris. Il s'appelait Jean-Baptiste. On l'appelait Papy. Il avait une centaine d'années, il était tout blanc, il avait une barbe blanche. Alors j'allais me confesser à lui, c'était un père du Saint-Esprit, tu vois. Donc c'est... Salut. J'allais me confesser à lui. Et puis elle a été marrant. Elle dit,
je suis jaloux de toi, je suis jaloux de toi, parce que toi t'es jeune, moi, et tu verras tout ça.
Il est mort maintenant, Papy de la Wallée, c'est trop mignon. Hein. Bon, alors, très bien. Alors, il me faisait sortir de la cité. Il me disait, oh non, la sainte obéissance. Alors, après le boulot, moi je bossais, hein, attention, c'était pas les 35 heures à cette époque-là. Et puis en plus, j'étais obligé de faire au moins 4 heures de plus par jour, parce que bon, c'était un boulot important. Bon, et bien, il me disait, vendredi, quand tu as fini, tu mets en pieds nus. J'avais quoi? J'avais 27 ans, quoi. Tu te mets pieds nus, à Paris, hein. Tu sors de chez toi, tu prends un truc un peu déchiré, et tu marches. Et tu sors de Paris. Et puis si t'as faim, tu demandes du pain pour l'amour de Dieu. Ah, je dis, vous êtes sûr, mon père? Et du coup, le vendredi, je faisais ça. Je dormais, je sais pas où, dans une poubelle, puis je sortais de Paris, et puis après je rentrais pour le dimanche soir. Ah, c'était un sacré père spirituel, hein. C'était pas un fou, lui, hein. En disant, oui, tu peux faire ça, c'est pas un péché, pas de problème. Non, non, c'est pas grave. Continue. Tu vois ? Non, non, c'était un père spirituel. Il faut dégager la cité de Babylone. Il faut dégager. Dégager, sortir de la cité. Pourquoi il faut sortir de la cité? Pas parce qu'il faut sortir, mais parce que nous sommes les sources du dévoilement de la cité nouvelle. Vous voyez? Alors, de mer, il n'y en a plus. Ah, ça c'est sûr, vous n'allez pas le ressentir. C'est parce que vous ressentez, ah, je sens très fort dans ma prière, que ma prière, vraiment, Dieu est là. Alors ça a terminé. Deux mères, il n'y en aura plus. Ce sera physique et puis ce sera divin. Vous voyez, notre prière sera en même temps physique et puis en même temps divine. c'est très très simple, vous voyez. Vous aurez, ce ne sera pas intérieur. Vous voyez, si, ce sera l'intérieur du corps. Et l'intérieur de la très sainte Trinité. Mais ce ne sera pas votre intérieur à vous. Vous voyez, de mère, il n'y en aura plus. C'est pas géant, ça. C'est vraiment un truc complètement dingue. C'est une description très forte et en plus très vraie. Vous voyez, parce que l'Immaculée Glorieuse, même déjà sur la terre, c'était comme ça. Jamais elle n'a eu d'intériorité. La Sainte Vierge. Eh oui, c'est vrai. Et Saint Joseph, vous croyez qu'il a eu une intériorité? Il n'a pas eu d'intériorité. Il n'était pas psychique. Il était ajusté au Père. Et le Père n'est jamais envoyé. Parce que s'il y avait eu une intériorité, oh, quelle force du Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me brûle, qui m'enflamme. Oh, alors ça veut dire que la Sainte Vierge, eh ben, elle se serait regardée elle-même. La Sainte Vierge ne s'est jamais regardée elle-même. Dans sa prière. Jamais. Jamais. Oh, qu'est-ce que je souffre de mystère de compassion de Jésus, cette transverbération. Jamais elle ne s'est regardée elle-même. Voyez, elle ne s'est jamais tâtée le pouls. De mère, il n'y en aura plus. Oh, ma prière, qu'est-ce qu'elle est forte en ce moment. Qu'est-ce que je me sens bien dans la prière. Une termine. Ça, c'est, voyez, ce n'est pas la cité sainte. Vous ne pouvez pas l'inventer, je veux dire. Ne faites pas, puisque c'est comme ça, je ne prie plus à l'intérieur. C'est pas ça. C'est le Seigneur qui va faire ça. C'est le Seigneur qui va faire ça. Parce que comme on sera allé jusqu'à la révélation du corps originel, à cause de la cinquième trompette, d'accord, et de la sixième coupe, à cause de ça, alors ça c'est dans... Ça, bon, moi je ne donne pas de date parce que après on me critique. Et puis de toute façon, je ne connais pas les dates. Mais de toute façon, il n'y a pas de date. Bon, alors, mais en tout cas pour la fin des fins des fins des fins, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de date. Pour les étapes intermédiaires, oui, on pourrait, mais je ne m'y risquerai pas parce que c'est toujours conditionnel, n'est-ce pas. Alors, mais une chose est sûre, c'est que à l'apparition de la cinquième trompette, la révélation de notre oui incarné originel sera là, ce sera en notre possession, l'intériorité du corps sera à la disposition de tout le monde. Supposons que ce soit dans 15 jours. Pourquoi pas? Ce serait normal, puisqu'il y a eu le Chicouti Meshomem le 8 mai dernier. Pardon, le 8 mars. Ben, ce serait normal, puisque le prophète Daniel, dès qu'il y aura le Chicouti Meshomem, aussitôt il y aura ça. Donc on sait, on est dans la période transitoire du aussitôt de l'ange Gabriel au prophète Daniel. On est là. Donc je vais vous dire, si ce n'est pas dans 15 jours... Je vais tirer la barbichette, moi, au prophète Daniel, en disant, tu nous as menti, comme d'habitude. L'ONU a décidé, je suis désolé, l'ONU a décidé, et l'ange Gabriel a dit, quand ce sera décidé, voilà, psychotsi, mais sur même, terminé. Bon, on est donc maintenant dans l'aussitôt, c'est pas demain, c'est pas bientôt, c'est aussitôt. Alors, peut-être que l'aussitôt de Dieu dure plus longtemps qu'on ne le pense. C'est possible, je n'en sais rien pour l'instant. Il dit, ça fait déjà 40 jours. Alors, faites le décompte. Hein. 40 jours. Est-ce qu'il faudra 153 jours? Est-ce qu'il faudra 888 jours? Est-ce qu'il faudra... Je sais pas. Mais en tout cas, nous serons tous en possession de notre corps originel. Tous. Tous. Et ça, c'est parfaitement clair, ça. Alors, je vous dirais, est-ce que vous ne pouvez pas nous décrire qu'est-ce que ça veut dire quand on est en possession de son corps originel? Bon, je vous l'ai déjà décrit, donc je n'ai pas besoin d'y revenir dessus. Mais du coup, on va vivre de la grâce eucharistique et de la christophanie incarné et glorieux de Jésus dans notre corps spirituel. Ce sera facile pour nous. Et du coup, on va dégager de la prière d'intériorité psychique ce qu'on ressent. Je sens la lumière, je sens la saveur de Dieu dans moi. Oui, je vais ressentir, mais comme Saint Jean dans l'huile bouillante. Ce ne sera pas son âme. C'est son corps qui sera délicieusement lumineux. Pourquoi? Parce que son esprit sera entièrement engolfé à l'intérieur de la fécondité glorieuse de la très sainte Trinité, dans la sainte famille glorieuse. La preuve, de ciel, il n'y en aura plus. La terre, il n'y en aura plus, et la mer aussi a disparu. Alors vous avez la preuve. Là. Vous voyez, en 1h15, on a fait le 1 verset seulement. Et je vis, c'est-à-dire, Kai, verset 2, Kai, je vis, c'est-à-dire, c'est parce que je vis, c'est Saint Jean qui le voit, donc moi, je le suis avec lui, je vais avec lui, et je vois ça, ce que je viens de vous décrire, je le vois. Par anticipation, par appropriation, et par puissance. Ça, c'est la vie chrétienne, ça, vous voyez, par appropriation, par anticipation et par puissance. Avec Saint Jean, je vis ça déjà. Vous voyez, j'en vis déjà. Et du coup, qu'est-ce que je vois, Kai? Qu'est-ce que c'est? Ça, cette histoire-là, je vois la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, du dedans, du face-à-face de Dieu, d'auprès de Dieu, du dedans, du face-à-face de Dieu. Vous voyez, comme c'est pas extraordinaire, ça. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée. Kekosmenon, enveloppée. Kekosmenon, revêtue, vous voyez, du cosmos dans toute sa beauté. Mais c'est un revêtement intérieur, vous voyez bien, que de l'intérieur, le cosmos ne fait que nous pousser en notre corps spirituel dans la Jérusalem. On est poussé. C'est ça qui s'est passé au fond entre la dormition et l'assomption. Cette poussée du cosmos et toutes les cellules vivantes de Marie en dehors du cosmos, dans la résurrection glorieuse de Jésus. C'est ça qui est décrit là, vous voyez, Kekosmenon. Mais nous, quand on vit la prière de manière incarnée dans notre corps, vous voyez, par exemple, vous êtes dans le mariage, vous avez le sacrement de mariage. Dans le sacrement de mariage, c'est le pouvoir qui est donné grâce à vous, c'est votre consentement à Jésus ressuscité, à Marie ressuscitée, et aussi à la sponsalité glorieuse de la Très Sainte Trinité toute éternelle, de venir dans votre unité sponsale réaliser ça. Vous le savez que le sacrement de mariage n'est fécond et efficace que dans le consentement mutuel de ce qui dépasse l'unité de chair et de sang dans un nouveau corps qui n'est ni à l'un ni à l'autre, mais qui appartient à l'unité des deux. Et qui est le corps de l'unité sponsale transfigurée. Et du dedans, vous donnez autorisation, possibilité, voyez, au Seigneur de réaliser ça. Ça, vous avez ici la mystique de la sponsalité, la spiritualité du mariage. Et là, il n'y a pas d'intériorité. Déjà, vous comprenez, mon père, j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. Je suis marié, mais j'ai l'impression qu'il me... L'impression. Il n'y a plus de mère. Il n'y a pas d'impression dans l'unité sponsale. J'ai l'impression que je l'énerve. Ça, sûrement. Ça, sûrement. C'est pas une impression. C'est une évidence. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage, ça. Strictement rien. C'est justement, si ça existe, c'est parce que justement, il faut fuir la mer, il faut fuir la terre, il faut fuir le ciel du mariage psychique. C'est extraordinaire, hein, c'est vrai, regardez. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, du dedans, du face-à-face de Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune sponsam, épousée. Kekosmenon, toute enveloppée d'un vêtement de beauté cosmique, vous voyez, et ordonnée toute à sponsusus, à son époux. Sponsas, Kekomenon, sponsusus. Mesdames, quand vous êtes mariées, retenez bien cette phrase extraordinaire de l'Apocalypse. Je la répète. Sponsa, Ouais, c'est du latin, sponsor. Kekos menon, c'est du grec. Kekos menon. Sponsis, oui. Alors, ça, c'est à nouveau du latin. Parce que je ne me rappelle plus comment on dit sponsus ou sponsa en grec. Mais c'est quand même extraordinaire. La sponsa, l'épouse, est de l'intérieur. Céleste, hein? Mais de ce qui fait vivre son corps féminin, dans la signification sponsale de son corps féminin, est toute revêtue de tout ce qu'il y a dans l'univers de plus beau, de plus splendide, de plus glorieux, qui la pousse en dehors du cosmos, à l'intérieur de Dieu, dans le face-à-face entre l'époux et l'épouse, c'est-à-dire le Père et le Verbe, pour s'introduire du dedans de son sponsus, de son époux. C'est marqué en noir sur blanc, hein. Voilà le béaba de l'acte de mariage, de l'acte lucide, de l'acte libre, de l'acte incarné, de l'acte humain du mariage. Hein, l'épouse, c'est quand même extraordinaire, tu trouves pas? C'est quelle formulation, c'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, c'est extraordinaire. Écoutez, c'est formulé de manière admirable. Admirable. Et le sacrement de mariage, c'est là qu'on voit que d'après saint Jean, le sacrement qui va brûler l'Antichrist, qui va brûler, écraser la tête de Satan, c'est le fruit du sacrement de mariage. Saint Paul l'avait vu, lui qui était monté déjà au 5e ou au 7e ciel, il ne sait pas. Il a dit à propos du sacrement de mariage, ce sacrement est grand, c'est le seul sacrement dont il est dit dans la Sainte Écriture qu'il soit grand. Les autres, c'est pas marqué, c'est des sacrements qui sont grands. C'est pour ça qu'on ne touche pas au sacrement de mariage. Et vous verrez que le pape Benoît XVI, il ne touchera pas à ça. Parce qu'il est infaillible.